La carte Visa Orange Monnaie Côte d'Ivoire, valable partout dans la zone UMOA, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Appel sur l'actualité. 33 9 693 693 70.
Anne Campner.
Bonjour à tous, RFI vous donne la parole pendant une heure. Comme chaque vendredi dans la seconde partie de l'émission, nous aborderons les sujets que vous avez choisis. Vous êtes plusieurs à vouloir revenir par exemple sur le massacre de plus de 160 Peuls commis samedi dernier dans le centre du Mali ou encore sur l'avenir d'Abdelaziz Bouteflika à la tête de l'Algérie. Tous les sujets nous intéressent, donc n'hésitez pas à nous appeler, à nous écrire. Rendez-vous dans une demi-heure pour la Libre Antenne. D'ici là, nous répondons à vos questions sur l'actualité. Le premier appel nous vient ce matin de Libreville. Bonjour Tanguy.
Bonjour Anne et bonjour à tous les auditeurs de la Radio du Monde.
Vous vouliez nous parler des Comores ?
Effectivement, à l'issue du premier tour de l'élection présidentielle comorienne, le président sortant Azali Assoumani a été réélu selon les résultats provisoires publiés par la CENI. Comment s'explique la victoire dès le premier tour du président sortant ?
Alors, pour vous répondre, nous sommes en ligne avec Sébastien Némette qui a couvert justement l'élection présidentielle aux Comores. Bonjour Sébastien.
Bonjour Anne, bonjour Tanguy.
Comment expliquer cette victoire du président Azali dès le premier tour ?
Alors là, ça dépend un peu de quel côté vous vous placez, hein, parce que côté pouvoir, on estime que bon, la population a récompensé le bilan des premières années de mandat du chef de l'État et souhaite continuer avec la vision du président Azali pour faire des Comores un pays émergent à l'horizon 2030. Après, si vous vous trouvez côté opposition, c'est une autre histoire. Hein. Azali a gagné parce qu'il a triché grâce à du bourrage d'urne, des procès-verbaux non signés, des assesseurs empêchés de faire leur travail. Voilà, ça c'est le point de vue de l'opposition. On peut pas dire comment c'est véritablement partagé le vote géographiquement entre les îles, entre les régions, parce que contrairement à d'habitude, la commission électorale a pas donné les résultats bureau par bureau, ni même île par île, même si le camp présidentiel affirme que le président Azali a obtenu la majorité sur toutes les îles. Normalement, on a aussi des tendances, dès le soir même, qui viennent des bureaux par les assesseurs. Là non plus, on les a pas, parce que le dépouillement s'est fait parfois dans les commissions électorales des différentes îles, ou directement au Palais du Peuple, dans la capitale Moroni. Et d'ailleurs, l'opposition accuse le pouvoir d'avoir rempli les procès-verbaux en même temps que fait le dépouillement.
Tanguy, vous êtes toujours en ligne avec nous. Vous aviez une autre question, je crois.
Effectivement, avant l'annonce des résultats, l'opposition contestait déjà les résultats. Pourquoi ? Et quelle peut être désormais la stratégie de l'opposition pour obtenir gain de cause ?
Sébastien, l'opposition a effectivement dénoncé ces résultats avant qu'ils soient officiellement annoncés, avant même la fin des opérations de vote dimanche dernier. Pourquoi ?
Parce qu'elle estime qu'il y a toute une série d'irrégularités qui s'est passée le jour du scrutin, bourrage d'urne notamment à Anjouan, où des habitants ont vu arriver très tôt le matin des boîtes avec des bulletins pré-remplis à l'intérieur. Ça avait mis le feu aux poudres avec des violences, du matériel électoral cassé, des bureaux de vote fermés, des affrontements avec les forces de l'ordre. Après, la liste est longue, hein. Il y a aussi la non-délivrance d'accréditation pour les assesseurs de l'opposition, le refus de les laisser accéder au bureau de vote à l'ouverture, l'utilisation de procurations frauduleuses, le déplacement des urnes par les forces de sécurité, la fermeture de certains bureaux beaucoup plus tôt que l'heure officielle, ou encore l'absence de représentants de l'opposition pour suivre le dépouillement, Anne.
Alors, est-ce que les opposants, maintenant, ont prévu de déposer des recours ? Quelle est leur stratégie aujourd'hui ?
Alors c'est un petit peu flou, hein, le jour du vote, les 12 candidats avaient ensemble dénoncé le déroulement du scrutin. Dans l'après-midi, ils avaient appelé les électeurs à boycotter la fin du vote et à empêcher même physiquement le retour des urnes dans la capitale avant de donner rendez-vous à la population au palais du peuple de Moroni où tout est centralisé. Ça avait été une stratégie un peu improvisée à la dernière minute, hein. D'ailleurs l'appel n'avait pas été suivi, ça avait été un échec. Après l'annonce des résultats, l'opposition s'est pas exprimée tout de suite, avant d'annoncer hier la mise en place d'un conseil national de transition, avant-hier même, un conseil national de transition avec à sa tête Soili Mohamed, alias Campagnard, qui est un ancien militaire. Donc l'opposition baisse pas les bras, pour l'instant elle tente d'instaurer une sorte de pouvoir parallèle.
Mais alors quels sont les objectifs de ce CNT ?
Alors officiellement, il doit gérer la crise post-électorale, assurer une transition pacifique, préserver la paix et la stabilité. Là, je cite le texte. Ensuite, l'opposition a annoncé que si l'élection n'était pas invalidée d'ici le 3 avril, et ben le 4, elle organiserait une campagne de désobéissance civile. Maintenant, on sent que l'opposition navigue un peu à vue, hein, elle réagit un peu au coup par coup, et puis elle n'est pas totalement unie, hein, il y a des dissensions, ça se voit jusque dans les conférences de presse communes, certains veulent un dialogue, notamment avec le chef de l'État par intérim, puisque le président Azali n'a pas encore prêté serment, d'autres sont favorables à une ligne un peu plus dure, ils veulent pas de dialogue, pas de négociation, faire table rase du passé avec de nouvelles élections notamment. Le ministre de l'Intérieur, lui, il a de toute façon prévenu que ceux qui remettent l'État en cause serait simplement puni, Anne.
D'ailleurs, le fameux Swahili Mohamed, alias Campagnard, dont vous parliez, a été arrêté hier. Et le climat est très tendu. Sébastien, 3 personnes ont trouvé la mort dans une fusillade autour de la principale caserne militaire de Moroni. Le ministre de l'Intérieur ne fait pas de lien entre ces deux événements, mais la tension est très vive, en tout cas aux Comores. Merci beaucoup, Sébastien Nemeth, d'avoir répondu aux questions de Tanguy. Passez une très bonne journée tous les deux. Un numéro pour nous contacter sur WhatsApp, le 33 6 89 28 53 64. Vous nous laissez un message avec vos questions et nous y répondons avec l'aide d'universitaires, de chercheurs et la rédaction de RFI. Bonjour Maki.
Oui Anne, bonjour et bonjour à tous.
Vous nous appelez de Guinée-Conakry, on vous écoute.
Merci. Donc le week-end dernier, deux avions militaires russes ont atterri à l'aéroport international de Caracas. Alors Anne, d'abord j'aimerais connaître les intérêts de la Russie à soutenir le régime de Nicolas Maduro, mais aussi savoir comment se matérialise la présence militaire russe au Venezuela.
Alors, selon la presse locale, en effet, deux avions russes sont arrivés qui transportaient une centaine de militaires et 35 tonnes de matériel. On va essayer d'en savoir plus avec notre correspondant à Moscou. Bonjour Daniel Vallot.
Bonjour.
Cette arrivée, d'ailleurs, a donné lieu à de nouveaux échanges tendus entre, d'un côté, les États-Unis, qui ont reconnu Juan Guaido comme le nouveau chef de l'État, même s'il s'agit d'un titre autoproclamé, et puis de l'autre, la Russie, qui maintient donc son appui au régime en place. Pourquoi est-ce que Moscou soutient le président Maduro avec autant de vigueur ?
Il y a comme un réflexe politique, hein, de la part de Moscou qui consiste à toujours soutenir les présidents en place lorsqu'ils sont menacés par une contestation populaire, par un mouvement dans la rue, et à plus forte raison lorsque l'opposition dans ce pays est soutenue par Washington. Alors ensuite, il y a un intérêt diplomatique évident pour la Russie. Le Venezuela était en effet devenu le principal, sinon le seul allié de la Russie en Amérique latine, une région où elle dispose de très peu de relais. Cette alliance, elle a été nouée à l'époque de Hugo Chavez. Elle a ensuite été renforcée avec Nicolas Maduro, qui a effectué de nombreux déplacements à Moscou. Et cette alliance, c'est également pour Moscou une manière de faire pièce à l'influence américaine. Ces dernières années, la Russie s'empare de tous les sujets qui peuvent un petit peu contrer ou amoindrir cette influence. Il est évident que le Venezuela fait partie de ces sujets. Il est donc logique de voir la Russie soutenir de cette manière Nicolas Maduro, mais peut-être pas à ce point. Ce qui peut expliquer en réalité l'ampleur de ce soutien, c'est qu'il y a également pour la Russie des intérêts économiques. En effet, la Russie, ces dernières années, est devenue, après la Chine, le principal créancier de Caracas. Il y a donc des milliards de dollars qui sont en jeu. Et ce qui est très intéressant en plus, c'est que ces prêts, ils ont été faits dans deux secteurs, dans le secteur pétrolier, mais aussi dans le secteur de l'armement, car le Venezuela a acheté beaucoup d'armes à la Russie. Et c'est justement cette fameuse coopération militaire qui justifie aujourd'hui l'envoi de ces deux avions russes à Caracas, dont votre auditeur nous a parlé.
Alors, notre auditeur Maki, justement, s'interrogeait aussi sur la présence militaire russe au Venezuela. Est-ce qu'on a une estimation de ce que représente cette aide, ce soutien russe au Venezuela ?
Écoutez, ces deux avions, on le sait, ont atterri à Caracas. Cette information a été confirmée par la Russie, mais Moscou n'a donné aucun autre détail. La Russie a simplement dit qu'il s'agissait d'une coopération dans le cadre des accords militaires conclus avec le Venezuela, que tout était parfaitement normal, parfaitement légal. En revanche, Moscou n'a donné donc aucun détail sur le nombre d'hommes envoyés à Caracas et sur le matériel qui a été livré. Moscou parle simplement de spécialistes ou d'experts pour ces hommes qui ont débarqué au Venezuela. Alors il y a tout de même un élément à prendre en compte, c'est le fait que ces deux avions, eh bien, ils sont arrivés en plein jour, au vu et au su de tout. On peut donc penser que Moscou avait surtout l'intention que cela se sache, que cela se voit, et qu'il s'agit donc davantage d'un signal politique envoyé à Washington que le prélude à une intervention militaire. Alors, en ce qui concerne la présence militaire russe au Venezuela, il y a aussi la question des mercenaires. Pour l'instant, ce sont des rumeurs persistantes qui font état de la présence de mercenaires russes à Caracas pour protéger Nicolas Maduro, mais rien n'est venu confirmer cette information. En dehors de ces deux avions, donc aucun autre élément tangible sur cette présence militaire russe au Venezuela. On peut donc difficilement imaginer aujourd'hui que Moscou s'engage véritablement dans une opération militaire pour protéger Nicolas Maduro. En revanche, ce qui est certain, c'est que la Russie a l'intention de jouer cette carte de la coopération militaire avec le Venezuela pour exercer une pression politique sur Washington et pour montrer qu'elle continue de soutenir Nicolas Maduro.
Daniel Valo, merci beaucoup d'avoir été en direct de Moscou. Maki, j'espère que nous avons répondu à vos questions sur donc ce soutien militaire russe au Venezuela. Nous allons parler maintenant de l'Algérie. L'Algérie où les soutiens au président Bouteflika s'effritent chaque jour un peu plus. Bonjour Mossadou. Et
bonjour Anne, bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Vous nous appelez de Conakry en Guinée. Soyez le bienvenu, on vous écoute.
Ok, comme je le disais au standard, dans un discours, le chef de l'état-major a suggéré que le président Bouteflika soit déclaré inapte à gouverner, selon l'article B de la Constitution. Et donc, à ce titre, j'aimerais savoir quelle est la probabilité que le Conseil constitutionnel enclenche cette procédure et qu'elle soit suivie au Parlement.
Houda Ibrahim, du service Afrique de RFI, est avec nous pour vous répondre. Bonjour.
Bonjour Anne.
Alors, quelle est la probabilité aujourd'hui pour que le Conseil constitutionnel réponde à cet appel du chef d'état-major et enclenche la procédure?
Alors, on ne sait pas, mais le Conseil constitutionnel n'a pas trop le choix vu la pression de la rue. Depuis l'appel aux institutions lancé par le chef de l'état-major de l'armée mardi dernier, on est dans l'attente d'une réunion du Conseil constitutionnel, dirigé d'ailleurs par un proche du président Bouteflika. On a entendu que ce conseil s'était réuni mardi soir, puis mercredi matin, mais finalement, la radio algérienne a affirmé hier que cela n'avait pas encore eu lieu, sans plus de précision. Des sources à Alger précisent tout de même que le président, pour éviter qu'il ne soit humilié devant un comité de médecins qui doit examiner son état physique et dire s'il est apte ou pas, donnera sa démission. On dit que sa lettre est déjà écrite, mais ce ne sont que des suppositions, rien d'officiel. Cela, donc, est un des scénarios possibles pour sortir de la crise, ce qui pourra expliquer en partie peut-être le retard pesant qu'a pris le Conseil constitutionnel avant de se réunir, alors que l'Algérie s'attend aujourd'hui à un sixième vendredi de manifestations. Ces manifestations sont un baromètre qui pourrait à nouveau accélérer les choses, surtout que les manifestants se comptent par millions. Le Conseil constitutionnel pourra-t-il garder le silence après cette nouvelle journée de manifestations? Nous verrons.
Alors, en admettant que le Conseil constitutionnel enclenche effectivement cette procédure, quelles sont les différentes étapes à venir ?
Alors, il y a plusieurs étapes. Le peuple algérien s'attend à ce qu'on bouge. D'abord, cette décision doit être prise à l'unanimité de 12 membres du Conseil, selon l'article 102 de la Constitution algérienne. Le Conseil propose alors à l'Assemblée populaire nationale du peuple de déclarer l'état d'empêchement. Le texte prévoit la déclaration de vacances dans trois situations: la maladie grave du président, sa démission ou son décès. Pour le moment, rien ne file filtre sur oui, si oui ou non, un comité de médecins a examiné ou pas le président algérien pour remettre son rapport au Conseil.
En tout cas, ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est que apparemment l'opposition et les manifestants ne semblent pas vraiment convaincus par cette procédure.
Le peuple algérien considère qu'il a été très patient. Déjà depuis 2013, quand le président est tombé malade, ce peuple a demandé l'application de l'article 102. Mais il n'a pas été écouté ni par le pouvoir, ni par l'armée, qui dit qu'elle représente le peuple. Il y a aujourd'hui un sentiment de colère et d'amertume qui domine parce que les revendications du peuple ont été reniées et bafouées.
D'ailleurs, de nouveaux appels à manifester ont été lancés pour ce vendredi. En fait, personne n'est convaincu, personne ne se réjouit de ces annonces, Souda.
Et beaucoup d'observateurs disent qu'aujourd'hui, c'est un baromètre, un thermomètre qui va montrer vraiment que les Algériens ne sont pas dupes et s'attendent à autre chose.
Merci beaucoup, Houda Ibrahim, du service Afrique de RFI. Moussadou, très bonne journée à Conakry. Nous reparlerons d'ailleurs de l'Algérie, j'en profite pour vous le dire, dans un instant, dans un peu plus d'un quart d'heure dans la Libre Antenne. Vous êtes nombreux à vouloir réagir donc sur l'avenir du président Bouteflika à la tête du pays. Avant cela, une dernière question. Bonjour Fred.
Bonjour, bonjour Anne.
Vous êtes en ligne de Brazzaville, vous vouliez nous parler de collaboration entre la France et la Chine pour une mission sur la Lune, on vous écoute.
La France participera à la mission lunaire chinoise Chang'e 6, annonce faite lors de la visite d'État du président chinois Xi Jinping en France. J'aimerais savoir quel est l'intérêt de la France de collaborer avec la Chine pour cette mission spatiale.
Eh bien, pour tout savoir, Simon Rosé, notre spécialiste science ici à RFI, est en studio pour vous répondre. Bonjour Simon.
Bonjour Anne, bonjour Fred.
Quel avantage pour la France de participer à cette mission chinoise ?
C'est juste une occasion pour la France d'aller sur la Lune, puisque la France n'a pas les épaules assez solides, assez larges pour financer une telle mission toute seule. C'est un peu la stratégie de niche mise en place par l'Agence spatiale française, le CNES, qui ne dispose donc pas de budget suffisant, donc multiplie les collaborations avec des partenaires internationaux. On pense notamment avec la NASA, qui est le principal. Il y a une mission, par exemple, qui s'est posée sur Mars il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle InSight. C'est la NASA qui l'a développée, mais le principal instrument scientifique dessus est français, puisque la France n'a pas les capacités d'envoyer quelque chose sur Mars. Pour la Lune, c'est pareil, donc on le fait avec la Chine. La Chine, c'est intéressant en plus. C'est la deuxième collaboration. Il y avait eu le lancement d'un satellite qui avait été co-construit par la Chine et les Français, CFOSAT, en novembre dernier, qui est un satellite d'observation climatique. Là, c'est vers la Lune. Et donc la Chine, c'est intéressant puisque c'est un gros acteur du spatial, hein, avec les États-Unis, la Russie, dont il y a donc la Chine, qui est complètement blacklisté par les États-Unis. Le Congrès américain interdit à la NASA de travailler avec les Chinois, qui ont pourtant un programme spatial très ambitieux. Donc pour les Français,
il y a une place à prendre pour la France.
Voilà, exactement. Pour les Français, se rapprocher un peu de la Chine, c'est pas inintéressant à ce niveau-là. La Chine dispose également d'une station spatiale, va en envoyer une plus grosse dans les années qui viennent. On sait que l'astronaute français Thomas Pesquet apprend le chinois, donc il y a peut-être un siège à prendre. Donc c'est ce genre de collaboration qui essaie de se nouer à moyen terme.
Fred, vous aviez une autre question, je crois, sur cette collaboration.
La Chine s'est récemment posée sur la face cachée de la Lune. Les États-Unis souhaitent aussi repartir à la conquête de la Lune. Pourquoi un tel regard d'intérêt pour cet astre ?
Oui, ça c'est sûr, les Chinois ne sont pas les seuls à s'intéresser à la Lune. Les États-Unis aussi, vous le disiez, Fred, le vice-président Mike Pence a annoncé la couleur cette semaine en disant « Nous sommes aujourd'hui dans une course à l'espace comme nous l'étions dans les années 60 ». Simon Rosé, pourquoi les regards se tournent-ils de nouveau vers la Lune aujourd'hui ?
Alors, pas pour les mêmes raisons. L'objectif ultime, ça reste Mars. Les Chinois, ils sont donc, comme je disais, dans un programme spatial qu'ils font tout seuls. Donc, ils y vont étape par étape. Ils ont fait l'orbite basse de la Terre avec leur station. Ils savent envoyer des gens dans l'espace. L'étape logique après, c'est d'aller sur la Lune, avec des missions robotiques tout d'abord, et puis avec des taïkonautes, des astronautes chinois dans le futur, et enfin viser Mars. Les Américains, eux, étaient partis directement sur Mars, avec notamment Barack Obama qui a dit « On est déjà allé sur la Lune, à quoi ça sert d'y retourner ? Autant viser Mars. » Sauf qu'on se rend compte que c'est un peu plus compliqué que ça, et que pour repasser par la Lune, ça va pas être une étape dont on pourra s'affranchir. Donc, d'où l'annonce de Mike Pence cette semaine, donc qui donne à la NASA 5 ans pour reposer un Américain et ou une Américaine sur le sol lunaire.
Qui a considérablement avancé les délais d'ailleurs. C'était pas ça ce qui était fixé
au
départ.
Oui, on était plutôt sur la fin de la décennie 2020. Maintenant, on est sur 2024. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. La fusée n'existe pas, la capsule n'existe pas, l'atterrisseur n'existe pas, les combinaisons lunaires n'existent pas. En 5 ans, avec le budget actuel de la NASA, ça risque d'être compliqué. En 61, quand Kennedy lance la course à la Lune, il donne 10 ans à la NASA. Et un budget qui qui compte pour 4% du budget fédéral américain.
Et là, le budget ne suit pas?
C'est 0,5%. Donc, en dollars constants, il est deux fois moindre qu'à l'époque. Donc, on demande à voir. Et bien sûr, il y a cet enjeu un peu géopolitique. La Russie a des projets lunaires, l'Europe a des projets lunaires, donc les Américains veulent en être également et montrer qu'ils peuvent se reposer et être les premiers à reposer à nouveau des hommes sur la Lune.
Merci beaucoup Simon Rosé d'être venu répondre aux questions de Fred. Vous restez avec nous dans un instant, les dernières infos africaines, et on se retrouve juste après pour la Libre Antenne. À tout de suite.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.